Merci. Alors, on est dans notre panel 4, la protestation créative. J'aime bien cet intitulé, hein, la protestation créative ou la protestation des créatifs ou comment la protestation devient aussi quelque chose de créatif, innovatrice. Donc, c'est d'abord Volodymyr Kuznetsov qui va nous parler.
Time is already started. So, I would like to start from self-presentation, because already almost 1 year old, already the 2 years when Maidan started. It was 21st of November. And on 21st of November, I just had some opening of my exhibition. And I even haven't thought about any protest actions and something. I just prepared some embroidery works. It's like such frames. And it was in some university, some national university. It was some dedication to memory and my personal memory. Also, I showed some works of my grandmother. It's like was from 70s also. It was connection of my personal experience, experience of my grandmother. So it was just some personal thoughts about life and society. And then we came to France, just after opening, I came to France, and they said their son would like to go somewhere to meeting on Maidan, on the square, because there's some his friend who, little bastard, and always take him somewhere. And they haven't knew that in like in 3 months later, they will care about these children's, that how they precisely shoot Molotov cocktails from some upper stairs when they was shooted to, throw these cocktails to armored police cars. So it was started 21st. Of November, and so people came to Maidan to support signing of the agreement for Euro integration. They wanted to have visa to go for free to Europe. And instead of this, President of President Yanukovych decided to not sign this agreement, and he chose the way to custom union, like in connection with Russia. And then just time by time, every day in the evening, start to go to Maidan. I made some transparent also, came like with people, we met with someone, and then appeared some leftist activity that let's come to Maidan because there are many national proclamations like glory to Ukraine, like death to the people, to the enemy. And we decide to create some, like some artists connected with us. We decide to make some transparent. It was this exhibition. So it was my embroidery. And then these people came on Maidan. It's leftist, we decide to make some transparent, like organize a trade union and not pray for Euro Union. Liberté, égalité, sisterhood. Glory to rational instead of glory to national. So it's a kind of too clever, transparent, and public take it too clever. And there was some radical nationalists who just said, it's leftists, we know them, they are just communist, and push them away. And leftist was too disappointed to participate in Maidan, in events of Maidan. After, they haven't knew, they haven't found some ways, instead of ways of representation. So they haven't go to the tents where all the activity was, where people came to occupy Maidan, and who was the main and most important people who was stayed on Maidan during days and nights for a few months. So we, then when leftists disappear, there was idea to develop consensus in these tents, because people came to tents and they haven't knew anything how to organize. They came in just empty space, and they want to dedicate some representators. We tried to fight with them, made some house. They call us provocators. We brought this some schemes how to develop consensus. So there was a lot of people who start to bring a lot of food to Maidan. It was during after beating of people, there appeared like millions, and so Maidan was occupied. There was a bus where people had meetings. This was bus like an office. That people had meetings and communicate with each other, and they had a lot of previous initiatives as territory communities. For example, it's like this territorial communities. It's when the village or city or region could decide instead of power or together with power, or authorities need to advise with territorial communities. And it's written in constitution, but the power would not like to develop this way. So these people was worked in this way for years. It's still not developed, and this bus later was burned. We had some idea to invite leftists, haven't come to the, they said, yes, okay, we will like to come to the tents to speak with people, because in the tents, this was this process of self-organization. And they said, like, for example, I say, today is the meeting, come there, and they say, ah, but we bought some tickets to the movie, sorry. We would like to come, but we would like to go to movie. And it was such, it's totally like, it was very, very disappointment in this. These people had very strong experience in taking consensus in their meetings. Like when they meet, like leftist organization meet somewhere, they very clear knew how to how to take decisions. And it was very important that they share this experience in tents, but they sought to proclaim it. Then we decide to glue. Also, we worked with Nina together and glue such texts on the street. It was some text from the coming insurrection from Invisible Committee. Also, it was developed by some people, some friends, that we want changes. We demand changes. Changes developed on Maidan in the tents. Welcome. It was on the bus stops in the city. So it was for us, for me personally, maybe, art, like decision not in choosing leader or bureaucracy, but in communication of equal, and when people communicate together and decide their life. So then there was some post, not post, but one of appointment that we meet together in some place, like we will organize all the Maidan meeting and like central union of Maidan will appear like, so we would like to have it. But central union haven't appeared like usually. It appears some 2-3 people for this meeting. And then it start 19th of January. On 19th of January, it was meeting of anti-fascists. It was 19th January, its committee in memory of killed lawyers, anti-fascists in Moscow, Stanislav Markelov and Anastasia Baburova. But also in this time started religion celebration in Ukraine. It's water baptizing. In the same time, it's appear fire baptizing, because on Grushevsky Street they start to throw cocktails of Molotov, and there start to be some firework show. And this firework show, my friend called to me, and she say, "You made." And before of this, there was also some meetings in tents, and people start to develop some. To ask it before 19, they start to develop some wishes what they would like to hear from the scene, because there must be some big meeting of Maidan, and on this Maidan, they wanted to demand the plan of actions from this parliament opposition, because they was like very amorphic. But there wasn't any plan. There was a decision to go to the parliament and fight. It's one of. So we wrote these demands. It was some assembly also intense. It was very intense process. And then my friend, she called to me and say, "Vova, you made so many works with these slingshots. Bring these slingshots to Maidan, because people shoot this." And I said, yes, it's very interesting. It's a slingshot from Tahrir Square, also I found. It's some catapulta which they made on Maidan. This work I made like in 2010. So she said, "Take these slingshots to Maidan." I said, yes, but it's work not so proper. And it's already destroyed. But it was like an idea how we could use it, for example. It's funny. So it was exhibition renewable weapon in some gallery. So it's the weapon which you could make by your hands. So it was such an idea. So, yeah, it's some installation, and it was for sure not so. No, it was like an ideas, but not so practical in Maidan. Yes, I could use these things, and I told them, but they already use it. And I go to the assembly for students to occupied university. And we start to work together, and this was the biggest and strongest process of creative process together with in parallel with this movement. It was a movement of students and intellectuals, and it's, for example, the women, they stayed on Maidan when police start to, they was beaten in this metal thing, and when police start to come, they start to beat faster, and everyone hear it. It was some development. And then this assembly start in university. Then we moved to Ukrainian house. It was part of Maidan, And on the part of Maidan, we start to work really like a part of common movement. We had idea to connect together with other people, to say like not only students, but to make it wider. And it was quite difficult. We had this idea, but we had no time. We had no capacity, physical, and mostly, I think, the time, because then started these fightings in February, that people were killed. Some people from assembly participate in this barricade movements, and then they occupied Ministry of Education. They had some clear demands and already prepared for 5 years, already developed laws which they push through by taking a new minister. So it was demands when this minister comes, they free the ministry, and this minister, there was demands to take transparent bookkeeping. This raw data now is some international example. And he take it, and it was quite successful, but then assembly, students assembly disappear. Their war started already. And some people from student assembly goes to war, then they develop some smaller initiative, but it's not the whole movement. And then we occupied also by help of this militarized student assembly people. There was Vinkesk, it was very thin, and just with some beads. And they came to Ministry of Culture, and they helped us to occupy Ministry of Culture. And we stayed in Ministry of Culture like few months in this underground place. We met, it was, there wasn't some straight ideas or straight laws to improve. We tried to at least to show the people other way of communication, because they came and start to proclaim their ideas. These ideas no one take, and they go away. And we sought just to make some base for this culture, because all of these ministries was built as ideological service centers to serve the Soviet Union empire. So it's still now like this, and almost nothing changed. We even haven't improved this transparent bookkeeping, but there are a lot of information appear, lot of new thoughts appear, lot of new ways of thinking appear. And as say, one of activists of Maidan, that it's depend what we would like to develop and demand, and it's the question that we could make 9 or 10 new Maidans. It's not a problem, but the question why it necessary and how it could appear. This I don't know for now. But I wanted to tell about these waves of Maidan also, that you come to Maidan and you feel like totally disappointed. You go, you like somewhere everything disappear, like that no way to develop something, that you like totally down, and then you meet some people, you have some like new initiatives. Like, for example, someone start to tell you have a lot of expectation from some guys who are intellectuals, who are like work in some center for visual cultures, and they say, but I don't believe in all these assemblies, I just will work in usual work for some German TV station. And you just think, why I here and what I do with these people? And then you go to some other people, for example, to this bus, to the tents, and you see that people are ready to develop some new, and they already have many plans and prepared ideas what to do. They have lawyers, they have experience in all of the Ukraine, and it's a big network of self collaboration and self mutual activity and mutual assistance and self support.
Thank you very much. This shows how much really the Place Maidan was a stage for innovation and in terms of self-expression and self-organization. I think you provided us with a lot of rich material and new ways of thinking. Thank you. Now it is Mavi Maher, who is also an artist, filmmaker. I think the perspective of the artists help us a lot because they have a much more micro level reading of what has been produced in Maidan through objects, words, forms. So this your turn. You need a mic.
Bonjour. Tout d'abord, je veux remercier les organisateurs parce que c'est, à mon avis, une chance précieuse d'être ici. Je suis réalisatrice et je fais mon master sur la relation entre cinéma et politique. Et hier, ma collègue Chaïma a très bien présenté et analysé les événements de la Révolution. Aujourd'hui, je voulais faire un témoignage personnel de ce que j'ai vécu personnellement dès 2011 jusqu'à maintenant. Et au début, moi je suis catholique chrétienne, j'étais élevée dans un établissement catholique dirigé par les sœurs au Caire, bien sûr. Notre école, il y avait des musulmans, des chrétiens. Mais à l'époque, et grâce au discours qui était dans la famille et dans l'église, j'avais un stéréotype de l'image de l'autre qui est dans ma société le musulman. Cette image était très négative. Je me croyais supérieure. Jamais de ma vie, je pensais que les musulmans peuvent connaître le Dieu que je connais moi. Puis avec le temps et tout au long des années, il y avait beaucoup d'histoires. Je vais citer une seule pour le temps. C'est que j'ai rencontré un musulman qui m'a dit « Je peux bien sentir la présence de Dieu lorsque je fais la méditation dans la nature. » Là, j'étais très étonnée. Et j'ai appris que je ne peux pas du tout, moi, monopoliser Dieu. Et c'était là que je me suis rendu compte qu'il faut bien reviser mes pensées. J'étais dans un monde très enfermé entre l'église catholique et l'école catholique. Et toutes mes activités étaient dans ce monde fermé. Puis, dès que j'avais 11 ans, je voulais être réalisatrice, mais j'ai décidé de faire sciences politiques parce que je croyais que les films ont un aspect sociopolitique très important et tous ces trucs techniques, je peux l'apprendre. Mais pour faire des films qui peuvent influencer, qui peuvent changer vraiment, je dois avoir une très bonne formation tant que possible dans plusieurs domaines, mais j'ai choisi d'étudier, de faire sciences politiques. Pour être capable d'analyser, de comprendre et pas suite transformer ces choses qui paraissent compliquées à des histoires inspirées par la réalité et qui peuvent toucher les gens et qui peuvent changer la société. Je fais ça dans, dans la section francophone à l'Université du Caire, à la Faculté d'économie et sciences politiques. Et là, je veux bien souligner que la méthode d'enseignement française dans cette section francophone m'a beaucoup aidée à développer mes capacités analytiques. Parce que aussi, je croyais à l'époque, comme notre média disait, que Moubarak était notre père et que c'était un système qui veut le bien de ce peuple. Et la première fois que je suis rendu compte de la corruption et de la monopolisation du pouvoir et de la corruption économique, culturelle et sociale et politique et tout, j'étais en première année d'université et non pas avant ça. Et petit à petit, ce rêve d'être réalisatrice et de faire ce pont entre politique et cinéma s'est renforcé. Et j'ai commencé ma carrière comme assistante de réalisateur, que ce n'était pas du tout facile à cause des contraintes sociales et aussi à cause que ce domaine en Égypte, il est monopolisé plus ou moins et fermé. Je n'avais pas du tout de connaissances, mais j'ai réussi à être l'assistante de réalisateur d'un réalisateur très célèbre chez nous, dont ses films dès 2008 ont anticipé la révolution. Et j'étais sur scène, assistée à filmer des scènes de manifestations et des gens qui se dirigent vers les postes de police à la descente de l'armée dans la rue. Et aux Frères musulmans au pouvoir dès 2008, 2009 et 2010. Et lui, il nous disait, il croyait que la révolution va arriver. Et je veux aussi souligner que durant les 4 années de mes études politiques, je n'ai jamais exercé la politique. Je n'avais aucune activité politique. Donc, c'est mes études restaient théoriques. Et puis, grâce à cette carrière du cinéma, à ces connaissances des gens clés, je fais aussi des connaissances dans le domaine politique. Et j'ai commencé ma première engagement politique en 2010 dans la campagne présidentielle avant la révolution de Hamdine Sabahi, candidat de gauche. Cette campagne, à l'époque, était bien sûr interdite, ce n'était pas du tout officiel. Et ils l'ont créée seulement comme sorte de protestation. À l'époque, la Constitution a permis la candidature de plusieurs candidats grâce à l'amendement constitutionnel qui était en 2005. Donc cette campagne a été créée seulement pour essayer de protester d'une façon différente. Et comme membre de cette campagne, je peux dire que j'avais une redécouverte du soi-même et de mon peuple. Parce que je pourrais contacter de gens très différents. Et la veille de la révolution, le 24 janvier, dans une réunion, moi j'avais tellement peur, je disais que rien ne va se passer, mais moi je ne vais pas risquer de me mettre en prison pour des manifestations, et je me moquais d'eux. Et j'ai dit, je veux le rôle, donnez-moi un rôle qui est simple et qui n'est pas dans la rue parce que je ne veux pas prendre ce risque. On m'a donné un rôle dans la chambre d'opération, c'est-à-dire je vais simplement suivre ce qui se passe sur l'Internet. En se dirigeant de ma maison vers la place de cette chambre, j'ai vu les gens dans la rue, j'ai entendu les voix de mes amis. J'ai rejoint la révolution. je me trouvais au sein de la révolution sans même avoir une conscience que je suis au sein d'une révolution, mais j'ai senti quelque chose dans la rue et avec les gens. J'ai senti qu'il y a une barrière de peur qui est cassée et qui ne va jamais retourner. Et surprisingly, je n'avais pas peur, même lors des attaques de la police. Et je me souviens qu'il y a quelqu'un que je connaissais à peine qui m'a aidée ce jour-ci et qui a été mise en prison parce que moi, je n'avais pas de l'expérience pour courir. Ah, et avant ça, je veux souligner que ma première participation à une manifestation, c'était comme Shaima a mentionné hier, lors du bombardement de l'église des Coptes. Oui. C'était en Alexandrie le 31 décembre. Et il y avait des manifestations au Caire, à Choubra. Là, Choubra, c'est un quartier où il y a la majorité sont des qui habitent sont des chrétiens. Et c'était là, j'avais 24 ans. C'était la première fois que je participe à une révolution. Il y avait des chrétiens et des musulmans et c'était énorme. À mon avis, c'était le prova de 25 janvier. Je veux aussi souligner que c'est très rare de trouver quelqu'un chrétien, et c'est pire encore pour une fille chrétienne, de s'engager dans la vie politique, parce que là, il y a deux facteurs. C'est vrai qu'il y a une persécution, surtout culturelle. C'est pas très officiel, mais c'est culturel. Par exemple, ma mère a perdu son poste d'être directrice d'une école, tout simplement parce qu'elle est chrétienne, parce qu'on n'accepte pas que la directrice soit chrétienne. Mais moi, personnellement, je n'étais jamais persécutée parce que je ne veux pas tolérer ça, je ne veux pas donner cette chance à personne. Et d'autre côté, les chrétiens se sentent victimes. Et ça, c'est un discours très renforcé au sein de l'Église. Donc, ils ne veulent pas s'impliquer, ils s'enferment dans les églises avec toutes les activités que l'Église offre. Et ils n'ont pas besoin de s'impliquer dans la société, ce qui est très grave. Voilà, la révolution est arrivée. Toutes les couches, les types, les courants d'Égypte se sont rencontrés à la place Tahrir. Et on a senti, comme aussi Shaima a dit hier, que nous sommes des citoyens et que cette rue ou ce Maïdan nous appartient. Et ça nous donne beaucoup de pouvoir et de renforcement. Et là, en 2011, j'ai fait mon premier court-métrage. Et j'ai commencé à participer aux festivals internationaux. Et là a commencé mon sentiment que j'ai une responsabilité où je veux bien participer, non seulement à la mise en conscience au plan local dans mon pays, mais aussi à transmettre l'image de mon peuple notre révolution, notre parcours ailleurs et partout dans le monde. Et en 2012, la campagne électorale est devenue officielle. Ce candidat, quand je travaillais dans sa campagne, Hamdine Sabahi, candidat de gauche, la campagne la plus pauvre parmi toutes les campagnes, parce qu'on ne pourrait pas avoir les mêmes moyens financiers comme les frères musulmans à l'époque et les partis de l'ex-régime. Et tout le monde disait que ce candidat n'a pas de chance et qu'il ne peut rien faire dans les résultats. Mais nous, on ne croyait pas du tout à ça. On était presque sûr qu'il va faire pour eux la surprise et pour nous ce que nous savons. Ça, c'était grâce de la tour qu'on a fait en Égypte. On a fait le tour de toute l'Égypte, même la haute Égypte. Et on était très proche des gens, donc c'est pour cela qu'on était sûr des résultats. Et voilà, il arrive en troisième lieu après Morsi, qui était le frère musulman, et Shafi, qui représentait l'ex-régime. Donc, tous les courants d'opposition se sont dirigés vers lui, mais c'était trop tard parce que c'était Shafi et Morsi qui devaient entrer dans le deuxième tour. Et ça, c'est une faute très importante de notre histoire parce que dès le début, les courants d'opposition ne se sont pas mis d'accord dans un seul candidat. C'est pour cela que les votes sont dispersés et on était devant le choix des frères musulmans ou de l'ex-régime. Et c'est grâce à la popularité de Hamdine Sabahi ou ce courant qui est né, il y a un courant populaire qui s'est né et ce courant il a une forme organisationnelle. Et il a joué un rôle très important dans la chute de Morsi. Là, en 2013, avec l'arrivée des frères et beaucoup de choses qu'ils ont fait, pour moi, personnellement, immigrer, c'est mourir. Mais je n'étais pas la seule à penser à ça sous ce régime. Parce que l'état civil était en risque. Et ça, c'était terrible. Là, je dois souligner le rôle des femmes, surtout dans les banlieues, qui étaient contre toutes sortes d'oppression, c'est-à-dire quand il y avait des accidents, des gens qui renforcent les femmes à mettre le hijab, les femmes frappent ces gens dans la rue. Parce qu'ils disent, elles disent... on n'attend pas personne de nous imposer le hijab ou de nous faire comprendre notre religion. En 2013, j'ai fait mon dernier court-métrage et c'était diffusé en 17 fois partout dans le monde et bien sûr en Égypte. C'était inspiré. Ah, ok, je termine. Et puis en 2014, Hamdine Sabahi s'est aussi présenté aux élections une autre fois, mais dans un contexte très difficile. Il était le seul candidat devant Sisi. Et on savait très bien qu'il n'entre pas comme candidat pour triompher, mais pour dire qu'il y a une opposition en Égypte, qu'on n'est pas dans l'état d'une seule personne qui est le général Sisi, et qu'il existe en Égypte une opposition. Là, les conditions sont très difficiles. Il a obtenu seulement 3% parce que tout de même les élites et les intellectuels et les gens qui étaient en opposition soutenaient le Sisi à l'époque parce que... ils ont changé d'avis maintenant, mais parce que tout le monde disait que l'Égypte a besoin d'un général dans ce temps. On ne partageait pas avec eux l'opinion, et nous, les 3%, dont la plupart étaient des jeunes, on disait en arabe quelque chose dans le sens de dire que nous étions la voix quand ils voulaient le silence. Et puis, je préparais mon premier long-métrage, le scénario de mon premier long-métrage, qui est inspiré par tout ce qu'on a vécu lors des 4 dernières années. Il était sélectionné dans le workshop Midi Talent. C'était le seul film égyptien. Et moi, maintenant, j'essaie de faire ce film dans un contexte qui n'est pas favorable au discours de 25 janvier, Et je veux bien le faire, j'insiste à le faire avec d'argent égyptien, purement égyptien. Et c'est ça le défi que je crois que je vais le faire. Merci.
Merci beaucoup, Mavis. C'était plus qu'un témoignage. Enfin, à partir d'un témoignage, on a eu une lecture de la société égyptienne vraiment en profondeur. Je pouvais vous écouter encore une heure et j'espère qu'on reviendra dans les débats. Merci beaucoup. Alors, j'invite Özge Derman qui va nous parler, aussi une jeune, pas doctorante encore, si. De notre séminaire sur la démocratie de la place publique.
Je commence à vous montrer une vidéo à propos de mon sujet. Et je voudrais parler de cet homme, cet artiste, Erdem Gündüz, qui a réalisé une intervention performative sur la place Taksim pendant les manifestations de Gezi à Istanbul. Et par son acte, il est devenu une des icônes du mouvement en Turquie et dans le monde. Et il a pris le nom de l'homme debout. Vous voyez la vidéo quand il a commencé à réaliser son acte. Et d'abord, pendant qu'on regarde la vidéo, je voudrais préciser les circonstances dans le cas, cet artiste est devenu l'homme debout. Et nous avons déjà parlé du mouvement de Gezi et de quelle manière il s'est développé. Et donc, je vais passer directement à cet acte. Au début de l'occupation de Gezi, et le 28 mai, il y avait une ambiance de fête, de solidarité. Et en même temps, il y avait aussi une résistance contre la violence étatique, policière. Et après deux semaines, le 16 juin 2006, la police était entrée dans le parc et avait évacué les gens et avait fermé le parc. Donc, pour les gens, il y avait un moment de désespoir parce que personne ne savait faire ce qu'il fallait faire. Et dans ces circonstances, après 19 jours de résistance, l'après-midi du 17 juin 2013, cet homme seul est arrivé sur la place et commence à rester debout et sans bouger et sans parler. Donc, au début, il était seul et il a continué à rester sans parler, debout et silencieux pendant 8 heures sur la place Taksim, malgré les harcèlements de la police. Et le moment où l'artiste était arrivé sur la place, il explique qu'il y avait la manifestation des deux syndicats en Turquie. Il ne pensait pas rejoindre, puisqu'il ne croyait pas les idéaux de ces syndicats. Et donc, à son arrivée sur la place, il n'y avait rien à faire, donc il dit qu'il a décidé de faire rien. Donc il a préféré de rester debout et silencieux. Et au début, il n'y avait personne, mais après 5 heures, d'autres personnes sont venues se joindre à lui et parce qu'il avait entendu parler de cet acte sur les réseaux sociaux. Comme Twitter et Facebook. Donc, il devient vite un phénomène sur Twitter à travers le hashtag Duranadam, c'est-à-dire l'homme debout. Et le partage de cet acte se réalise donc par l'intermédiaire des réseaux sociaux et il reproduit de façon contagieuse partout en Turquie et dans le monde aussi. Et cet acte produit une forme de créativité performative dans laquelle nous trouvons les traits de l'art de la performance, de la danse contemporaine, et ainsi que de la résistance non violente. Et de plus, il révèle la violence répressive du pouvoir étatique et détourne également l'image prévisible de l'idéal type de la protestation. Il existe donc plusieurs niveaux à examiner dans cet acte. Premièrement, il s'agit d'une occupation créative et immédiate de la place publique qui devient une sorte de désobéissance civile collective. Deuxièmement, soit comme une protestation, soit comme une performance, il introduit une nouvelle forme d'action non violente contre la violence d'État. Le troisième point, c'est l'intervention d'un petit geste quotidien dans l'espace public afin de créer des pressions politiques. Et finalement, il suscite la production des comptes publics et dans les espaces publics pluriels en relation avec la dimension d'expérience. Tous ces niveaux ne sont pas différents les unes des autres, mais sont de plus en plus entremêlés. Et je voudrais commencer avec le concept d'Occupy, parce que l'artiste explique qu'il éprouve, je cite, « une sensation de conquête de la place », fin citation, « pendant qu'il reste debout sur la place ». Il utilise exactement le terme « Occupy ». Il dit « un homme seul peut occuper la place ». Et donc ce terme nous renvoie au rassemblement et les occupations des espaces publics. Et une des particularités de ces rassemblements, comme dans le mouvement de Gezi, est la constitution d'une collectivité hétérogène à partir de l'existence singulière de chaque personne. Comme il est le cas dans la propagation de l'acte debout, les modes d'action circulent et se reproduisent dans le monde à travers les réseaux sociaux. Donc, dans l'espace public, l'art n'en est seulement mis en œuvre d'une manière active dans la résistance et enrichit des nouvelles formes d'expression, mais il crée aussi des espaces de rencontre dans lesquels une énergie performative et collective se produit. De plus, il transforme les espaces publics, comme on a vu dans l'acte de l'homme debout. Pendant sa protestation ou performance, le corps de l'artiste devient un espace de libération, de résistance, puis un espace d'intervention à la vie quotidienne. Et en outre, la place Taksim se transforme aussi. Elle est occupée par une intervention artistique. Et étant donné que cela est réalisé par un petit geste quotidien, je crois qu'il convient de parler de politique des gestes. Et Anula, par exemple, parle des gestes qui appartiennent à l'expérience quotidienne et qui deviennent en outre des complices du crime, apportant une différence et faisant bouger les choses. Donc les actes de petits gestes peuvent, une fois qu'ils sont introduits en espace public, reconfigurer ces espaces comme dans l'acte de l'homme debout. Alors qu'Anula propose une idée de politisation qui devient une possibilité pour créer et imaginer des alternatives, Yves Citon suggère des gestes inattendus, et comme un écart, une image choquante, un signal ambigu qui déclenche des dynamiques pour un renversement. Donc l'artiste explique aussi son acte comme un acte de dormir, manger et s'asseoir, donc comme un acte quotidien. En outre, il souligne que son acte est comme un jeu dont les règles sont très simples, ne pas parler et ne pas bouger, ce qui trouble les policiers puisqu'ils ne connaissaient pas les règles de ce jeu. Et il pense qu'il est difficile de gagner si quelqu'un ne connaît pas les règles du jeu. Et il ajoute, je cite, « Cette fois-ci, j'ai instauré les règles du jeu. » Donc, à propos de ce moment, il parle d'une sensation de maître échec à main. En fait, à travers ces petits gestes, naît un nouveau vocabulaire politique en Turquie, pour créer des pressions micropolitiques afin de briser le sentiment d'impuissance. Et l'acte de l'homme debout est un petit geste qui opère une telle pression sans l'usage des moyens violents. Cette notion de la non-violence est considérable puisque l'homme debout, quand il était apparu sur la place Taksim, il y avait une situation d'une violence extrême pendant le mouvement. Et au cours du mouvement, ce choix de non-violence était visible. C'était utilisé par la plupart des citoyens. Et donc, cette particularité nous rappelle d'autres résistances non violentes comme la résistance indienne anticoloniale et le mouvement des droits civils aux États-Unis, et particulièrement des résistances individuelles comme celle de Tankman sur la place Tiananmen en Chine. L'artiste aussi reconnaît cette ressemblance avec Tankman, qui avait marqué l'histoire par son stand-in en 1999. Il dit, je cite, « Je ne suis pas la première personne qui s'oppose au pouvoir ou à l'injustice, et je ne serai pas la dernière. Comme les manifestations des Afro-Américains, comme l'homme de la place Tiananmen, et encore d'autres qui s'opposent au pouvoir. Je ne suis ni le premier, ni le dernier. » Et selon lui, les actes individuels sont plus puissants que les actes collectifs, parce que ce dernier, le système exécutif, s'est déjà préparé. De plus, il définit les trois caractéristiques de son acte. Premièrement, il dit, il n'est pas illégal. Deuxièmement, il est facile à copier. Il suffit d'avoir une intention. Et troisièmement, il faut avoir une raison à exprimer. Et j'ajoute aussi qu'il décrit ses 8 heures en tant qu'homme debout, précisant 3 mots. Première, c'est l'obstination, la simplicité et l'espoir. Donc, à travers la mise en pratique de ces 3 mots, et cet acte a pu être reproduit par beaucoup de gens dans plusieurs espaces publics en Turquie et dans le monde. Obstination, la simplicité et l'espoir. Et la dimension d'expérience nous mène à l'idée d'un espace public pluriel lié à l'interaction des sujets avec des différentes sphères publiques. Il formule, Necht Kluge, il formule la notion de compte public comme Fraser, et qui met l'accent sur les espaces, sur les comptes publics subalternes, comme les espaces alternatifs dans lesquels des comptes discours sont diffusés. Donc la création des espaces publics oppositionnels constitue un élément essentiel de la résistance et de la formulation d'alternatives, et de plus d'un partage d'expériences réelles des individus. Ce petit geste crée donc un espace de rencontre des corps qui sont situés dans différents espaces publics, et tous ces corps immobiles et silencieux produisent une sorte de libération créative. Et pour finir, je voudrais préciser que cet acte possède plusieurs identités en même temps. On peut le qualifier comme une expression artistique, un stand-in, une désobéissance civile, une performance, une résistance non violente et un acte performatif. Et je voudrais finir avec cette phrase qu'il avait dit. C'est un acte sans propriété, qui déclenche multiples propriétés, puisque Duran Adam n'est pas une personne et en même temps, il est une quelconque personne.
Merci beaucoup, Özge. On voit quand même que la problématique de l'espace public produit une autre manière d'approcher ces mouvements et de saisir l'innovation. Et on peut dire que, à la limite, à travers juste cet exemple, on peut parler de toutes les particularités qui ont été mises en exergue dans l'espace public. Donc, quelle est la nature de l'action, quel est le vocabulaire, ce côté effectivement artistique et performatif. Merci beaucoup. On reviendra. Et juste aussi quelque chose à dire, encore Vous n'avez pas perdu votre temps à parler de ça, mais c'est important pour les discussions d'après. Comment ça a été aussi parlé dans les médias? Au départ, ils ont dit c'est quelqu'un qui veut justement renverser le gouvernement par un coup d'État. Il regarde les drapeaux, et la photo pendant qu'il et la photo d'Atatürk. Donc c'est un kémaliste qui cherche à renverser le gouvernement élu par des voies démocratiques comme en Égypte. Parce que justement le renversement du régime des frères musulmans par Sisi a donné des effets très négatifs, a créé des effets très négatifs, a des effets pervers en Turquie, en disant effectivement la place publique veut faire la même chose pour nous. Et puis il se trouve que ce même homme avait déjà fait une performance dans les universités quand le foulard a été interdit, et lui il avait mis un foulard lui-même, donc il est entré dans l'amphithéâtre déguisé en femme musulmane. Donc le fait qu'il était justement parmi ceux qui cherchaient à renverser un gouvernement élu démocratiquement, comme dans le cas de l'Égypte, est tombé à l'eau. Tout ça, c'est pour dire combien la manière dont dans les médias, le discours, le contre-discours aussi du gouvernement peut discréditer ce genre d'action. On est face à encore la bataille des sens, du sens. Donc, d'où l'importance de ce travail, de les ramener dans notre mémoire collective des chercheurs pour justement donner une sustainability. Parce qu'une des questions qu'on se pose, et après, qu'est-ce qui se passe? Il a disparu. Oui, mais justement, on le fait revivre aussi dans nos manières de continuer à éclairer, à reproduire, et pas toujours par des expressions artistiques, mais aussi par les recherches. Merci. C'est à vous, Engin. Soyez disciplinés, s'il vous plaît. 2 minutes pour lui. Je passe mon temps depuis 10 ans. Enfin, je le connais combien d'années? Et dans mon séminaire, il venait faire aussi un effet disruptif dans mon séminaire avec son amour pour le vocabulaire de Deleuze. Et on va voir notre, je pense, président de l'école, Pierre Cyril, a gagné le cœur de Engin parce qu'il a parlé de la déterritorialisation.
Déterritorialisation de la violence.
Et quelqu'un aussi, vous, je crois, Zeynep, a parlé de mineurs. Donc, Engin, voilà.
Merci beaucoup. Je vous remercie aussi de m'avoir invité déjà à l'école. Bon, à l'époque, j'étais étudiant, là maintenant, entre guillemets, académicien. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais bon. Voilà. Je vais commencer par parler du côté kurde, de la résistance déjà. Peut-être depuis Gezi jusqu'à Tahrir et Rojava, et puis l'occupation de l'autogestion dans l'espace kurde en Turquie. Donc je vais continuer avec deux dimensions. La première dimension, c'est la réflexion des activistes à travers les images créatives de l'espace kurde. Le deuxième, c'est la perception des artistes de l'espace kurde. Donc je vais parler d'abord de la première. Donc la perception des arts dans l'espace kurde affiche un fort rapport à la question politique elle-même, des vécus et des expériences. Et les artistes ont le percept de réfléchir à ce qui les entoure, comme la paix, le conflit, l'occupation, l'armement, et l'autogestion et la résistance. Et là, dans le premier temps, on voit que dans l'espace kurde, il y a un changement du discours, du langage depuis les années 90. C'est-à-dire, dans les années 90, il y avait un langage plus fort politique, approche au mouvement kurde. Et là, aujourd'hui, il y a un langage plus singulaire, approche à la société, à la résistance et à la gestion généralisée. Et donc, je vais parler et continuer plutôt en montrant certaines images, et on parlait sur ces images, des activistes qui ont utilisé pendant l'autogestion kurde depuis la première entrée 7 juillet, l'élection nationale en Turquie, et jusqu'à 1er novembre, si je date mal, tu peux m'avertir. Donc, il y avait une occupation de l'autogestion, la déclaration de l'autogestion dans la Kurdistan en Turquie. Et donc, dans cette occupation de l'autogestion, aussi, il y avait une violence extrême de l'État contre toutes les activistes kurdes. Et là, dans cet espace-là, ils ont influencé exactement la révolution de Rojava, la résistance de Kobané contre le Daesh. Ils utilisent un langage, une résistance imitée dans l'espace kurde en Turquie, et imitée aussi, en fait, le langage de la résistance de Gezi, de Tahrir et d'autres aussi. Et ils appliquent exactement dans l'espace public aussi, dans l'espace kurde. Donc, je vais vous montrer, je vais continuer avec les images, ce sera mieux. Alors, la première image que vous voyez, donc, c'est marqué l'État, la République turque est là et vous êtes où, les bâtards? Bon, c'est la police spéciale, on dit le groupe, groupuscule, force spéciale, bon, la brigade spéciale qu'ils ont, qu'ils étaient en fait pendant l'autogestion. Que depuis 16 juillet, on a entendu parler qu'il y a à peu près 650 personnes ont tué par ce brigade spéciale, avec une violence extrême de l'État. Donc ils ont écrit, ils ont une performance aussi, hein, de violence étatique sur la mur. Donc voilà, l'État, la République turque est là et vous êtes tous les bâtards. Ça, la première réflexion. Donc je le cherche juste. C'est bon. Et le deuxième, on va continuer. C'est marqué. L'État est partout, les filles. On est arrivé, les filles. L'État est partout. Et l'État rentré dans votre foyer. Voilà. Un truc comme ça. Il utilisait un langage, la police spéciale, il utilisait exactement un langage patriarcal, dominatif masculin. Donc, il continue. C'est la deuxième image. Si tu es turc, fier de toi, si tu n'es pas obéi. Donc c'est encore ça, continue. Alors, ça commence exactement le langage résistant des activistes de l'autogestion contre ces slogans sur le mur. Donc il y avait un slogan de la République turque qui disait « Nemutlu Türküm diyene, heureux celui qui se dit turc ». Au lieu de ça, les activistes ont joué le mot. Ils disent c'est lui qui, bon, heureux, c'est lui qui chante. Il y a un changement sémantique, en fait, des mots au lieu de ça. Ils ont changé aussi les symboles de l'extrême droite sur la trois images, en fait, tout de suite. Donc, ils ont changé aussi les symboles de l'extrême droite turque. Au lieu de ça, ils ont utilisé, voilà, des trucs un peu caricaturales, ironiques. Et les deuxièmes images qui ça continue. En fait, la police spéciale turque, il est écrit sur la mur les dents des loups ont goûté le sang. Au lieu de ça, les Kurdes utilisaient Kürdün dışında pivazeydi. Pivaz, c'est en kurde, c'est-à-dire oignon. Donc, il est dit que les dents des Kurdes ont goûté les oignons. Voilà, pour rigoler exactement ce slogan de la police spéciale. Et le deuxièmement, celui-là, voilà, Kürdün dışında kan değdi. Bon, les dents de loup ont goûté le sang. Voilà, c'est un police spécial qui est en train d'écrire sur le mur. Et le troisième image, on voit sur le mur encore, ils ont écrit la génération turque avec les symboles de l'extrême droite turque sur la gauche. Et les gens ont changé la génération de chansons. Au lieu de ça. Des chanteurs. Non, pas chanteurs. Ah oui, c'est des chanteurs. C'est vrai, des chanteurs, c'est pas des chansons. Et puis, pendant l'occupation de Diyarbakir, dans le quartier de Sur, les activistes de l'autogestion, ils ont écrit « Devjiberde beken heval ». Donc, c'est-à-dire que « Laisse tomber, camarade, souris ». Voilà, ils ont écrit sur le mur pendant l'autogestion. Donc, en fait, ce langage, bon, je dirais qu'il y a un contre-langage qui criait et résiste exactement le langage étatique de la domination masculine. Donc, les combattants de la religion, de la région, ont changé exactement les écrits de la brigade spéciale et ils ont appliqué dans l'espace politique un jeu de mots, public. Dans l'espace politique et public, un jeu de mots pour dire exactement une ironie sous-entendue et traduite, soutenue par leur performance de la résistance. Et puis, et le troisième, si à la fin de la séance on a du temps, je vais vous montrer en fait une vidéo d'un artiste qui a réalisé aussi sur la paix en Turquie qui est arrêtée. Donc ils ont utilisé, je voulais dire aussi, ajouter plutôt, dire aussi qu'ils ont utilisé pendant certaines performances créatives de la résistance aussi, par exemple, c'est marqué « Bu gördüm be Silvan'da hayat kurtulur ». Ce drapeau dont vous voyez sauve la vie à Silvan. Silvan, c'est la première l'autogestion déclarée par le mouvement kurde pendant la résistance depuis c'est juillet. Et là, vous le connaissez très bien, en fait, cette image très populaire pendant la résistance de Kobané qu'ils ont utilisée. Ils l'utilisent aussi dans, pendant l'autogestion au Kurdistan de Turquie. Et le troisième, vous le connaissez aussi l'image. La première, c'est la Barcelone, 36. La quatrième, 42, Stalingrad. Et la troisième image, encore des femmes, Kobané, 2014, No Pasaran. Donc, ils utilisent toujours des images de la résistance dans la... dans l'exil, voilà. Toujours des femmes. C'est ça que je t'ai posé hier, la question, pourquoi?
Bon, pas de...
Ok, ok. Ok, ok. Je vais très vite. Hein. Ok, voilà. Je passe cette fois-ci...
C'était bien?
Oui. Cette fois-ci, je passe les artistes. Très vite. On a du temps, n'est-ce pas?
Je vous cède mon temps.
Alors, on continue de parler œuvres, des œuvres d'art, de l'art contemporain en Turquie, dans l'espace kurde plutôt, depuis les années 90. Donc, j'ai travaillé dans ma thèse à l'UHESS. En fait, cette prestation explore en effet la relation complexe entre la politique culturelle, l'identité et la politique question dans l'espace kurde, dans l'espace public kurde. En Turquie. Donc, il y a trois, quatre images que je voulais montrer. Ce sont des nouvelles images. La première, donc, une vidéo réalisée par l'artiste Ali Bozan en 2009. Ceci n'est pas un Bea Soros. Donc, Bea Soros, c'est une voiture Renault 11 blanc. Qui est utilisé par les polices spéciales, brigades spéciales de l'État profond aux années 90. Donc, se montre exactement la symbolisation de cette voiture pour des personnes disparues dans la zone de guerre au Kurdistan turquie. Donc, l'opposition entre la politique gouvernementale et la vie quotidienne consiste exactement avec les images. Sans doute un topos de discours contre discours et d'approche réflexive dans la création de l'art contemporain. Et les artistes attribuent aux gestes visibles dans leur approche d'absurdité à la vidéo, à la performance ou à la création. Exactement. Alors, la deuxième, c'est un court-métrage d'un réalisateur, Fratiaouz, qui a filmé en fait. Le symbole de Bea Soros aussi encore, qui s'appelle le monstre Toros. Pour rappeler, d'idées déjà aux personnes disparues pendant les années 90. Et donc, là, d'autres images que je vous montre. Alors, c'est l'artiste Mehmet Çeper qui utilisait un contre-discours anti-hégémonique contre le militarisme en Turquie. Chaque civil est un soldat. Donc, il a utilisé exactement les images du discours de l'armée turque sur toutes les zones sécurisées par l'armée turque. Il a utilisé les symboles, les gestes vitaux d'un soldat aussi, mais par contre, dans les habillements civils. Ça aussi, le travail de Mehmet Çeper, qui l'a dit, trampoline, en fait, entre les frontières de Kobané et Mardin, la Turquie, c'est-à-dire entre deux frontières, il a fait cette performance trampoline. Et heureusement, on l'a montré. C'est l'œuvre de Şener Özmen. Il s'appelle Flak. Ben, c'est-à-dire que voilà. Il y a une cérémonie chaque jour à l'école primaire sur le drapeau turc. Ben, ils ont fait un truc comme ça toujours, regardant en haut. C'est une symbolisation aussi des symboles de l'État. Et puis, voilà, soi-disant artiste, Nilüfer, elle connaît très bien, en fait, que j'ai utilisé pendant ma thèse. En fait, Cengiz Tekin, c'est un artiste aussi très performatif qui utilise exactement un micro-langage révolutionnaire qu'il a dit et lui-même. Que soi-disant artiste, ça renvoie exactement les symboles de soi-disant un peuple, soi-disant une résistance, soi-disant un mouvement kurde, soi-disant blabla. Donc ce discours de soi-disant, ça devient exactement un discours raciste dans l'espace public, utilisé par les acteurs dominants de l'État ou d'autres choses. Et donc, je termine ici et je vous remercie. Ah, je vous montre juste une image aussi. Oui, très vite, je suis très vite. Le dernier, image, c'est très important aussi, renvoyé exactement pendant le coup d'été 80 en Turquie, la prison de Diyarbakir. L'artiste Erkan Özgen a fait une vidéo installation dans une exposition. Et donc, 2008, j'étais là-bas aussi. En fait, dans la vidéo, Robin, il y a trois images que moi, j'ai copiées moi-même de la vidéo. La première, le jeune homme, il chante sur la prison. La deuxième image, le jeune homme, il jette une pierre contre la prison, là où il y a la photo de Foucault. Voilà, l'histoire de la prison. La troisième image... en vue de général de la prison de Diyarbakir. Bon, on dit que la prison de Diyarbakir, c'est un Auschwitz, c'est un camp pour les Kurdes, dans la mémoire, dans le passé, dans les expériences, qu'ils n'oublient jamais. Et les artistes basent exactement sur cette mémoire pour donner une résistance qui se passe à travers la création artistique. Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Et comme ça, je peux vous montrer le film aussi. Hein.
Bah, ouais. Je crois qu'il demandait de montrer.
Cool, ouais. Il y a, en fait, il y a deux vidéos, une 4 minutes, l'autre 6 minutes, mais je pense que je n'ai pas la permission.
Choisis.
Ouais. Ok, le premier, je pense que bah, j'ai demandé en fait mes amis, mes camarades, je les ai dit, lesquels, ils ont choisi cela. Le film de... c'est pas le film. La vidéo de...
Il y a deux vidéos.
L'artiste Chener Özman, il a réalisé cette vidéo, exposée la galerie Pilote à Istanbul, 1er septembre 2015. Il y a à peu près deux mois avant.
Açıkçası sevgili beyaz güverdin, barışı pek itibar görmeyen, hayatımız cehenneme dönmeden önce konuşmalıydık. Şimdi değil. Bu videonun kötücül kadrajıyla sınırlı kalmayan, şöyle arada yağmurların yağdığı, güneşin açtığı gökkuşağının bir görünüp bir kaybolduğu. Senin tüylerin gibi bembeyaz bulut öbekleri arasında ne savaşın barışı ne de barışın savaşı çağrıştırmasına gerek kalmadan buluşmalıydık. Şimdi değil, burada değil. Buralarda da iyi şeyler olabilirdi sevgili beyaz güvercin. Zaman zaman oluyor da. Çok çabuk geçiyor ama etkisi sanat gibi, yeter gibi, çocukluk gibi, bir türlü bir araya gelmeyen çocukluğum gibi. Bilmediğim, deneyimlemediğim, yaşamadığım bir şeyden sana söz etmem mümkün mü? Sembolik olman dışında bana hiçbir şey ifade etmediğin gibi sana biz aptallar tarafından yüklenmiş misyonunu da yerine getirmiyorsun. Havada barış için şifte takla atan insanlar gördüm. Böyle işte yalpalaya yalpalaya gidiyoruz. Takla atarken boynumuz kırılıyor. Barışı beslemek lazım. Size gıpta ediyorum. Yine de türünüzü derbeder eden bir dil kimlik sorununuz yok, hiç olmadı. Mezhep savaşlarına girmiyorsunuz. Seni böyle alıkoyarak haksızlık ettiğimin farkındayım. Salıvereceğim seni sevgili beyaz ve umutsuz güvercin. Siyaseten değil. Bunca beyaz güvercinin yaşadığı bir coğrafyada barıştan söz edemediğimiz için.
Voilà. C'était terminé. J'ai eu la permission de l'artiste de vous montrer exactement cette vidéo. En fait, l'artiste, il est fait exprès d'utiliser exactement l'accent de son enfant,
ouais,
de Robin. Parce que Robin, quand il est né, il a commencé à apprendre déjà sa langue maternelle kurde. Et quand il est arrivé à l'école primaire, donc comme c'est interdit encore en Turquie, dans l'école maternelle, il a appris turc. Et c'est pour ça qu'en turc, il a un accent. Là, il y a certains qui ne voient pas, en fait. Ces gens qui viennent de Turquie, ils connaissent très bien cet accent. C'est un accent exactement remarquable des Kurdes. On dit, ce qu'il disait aussi l'artiste généreusement dans un texte, un langage bifurqué, donc de micro-résistance, qui est utilisé par Gilles Deleuze, qui je cite à la fin. Merci beaucoup tout le monde.
Merci. Oui, donc juste quelques images pour revenir à cette idée de la performativité artistique. Là aussi, je pense que c'est important, peut-être c'était dans la présentation de Leïla, il y avait la masque à gaz. Voilà, donc c'était pour dire que quand on regarde à l'échelle micro ce qui s'est passé sur les Maïdans, on est justement en train aussi de décrire les objets, comme vous l'avez fait, the objects that we see in the Maidan, and here the gas mask, but I wanted to show how also humor, how they not only the utilization of an object, les objets, mais aussi comment on transforme ces objets en une ironie, l'humour, etc. Juste avant le déjeuner, un peu de légèreté.
Je dois faire remarquer comment, au contraire, une œuvre d'art peut devenir une arme sur la place.
Exactement. C'est pour ça que.
Moi, j'ai dit la contre-violence, exactement. Voilà, un langage de contre-violence qui contre la violence étatique.
L'ironie et l'humour. Et donc, pour cela, que c'est quand on parle de la matérialité dans l'espace public, c'est très important. Donc, je remercie à tous les intervenants parce qu'ils ont fait sortir cette matérialité et également l'intersubjectivité, parce que bon, je vais dire quand même mes deux mots, c'était plus long, mais je pense que c'était aussi important depuis ce matin ce qu'on a entendu. Les personnes ont désenclavé leur subjectivité, même leur lieu. Ce que ma vie est raconté, comment les chrétiens, because the fact that people were living in given communities, in given neighborhoods, like you have described for the Christians living in Egypt, within the confinement of the churches, for instance, and others, they met, they came out, they felt the boundaries between these spaces felt. So there is an element of transgression and meeting with the others. So Maidan movements brought this. We have heard in the other presentations as well, when you say it sociologically, the old cleavages were ending. They were trying to surpass the old cleavages. It's not it's not sufficient when you see which cleavages, like Turkish-Kurdish women meeting in Maidan, as Buket has given. So all these very concrete examples, I think that shows the new actors and the way they create new intersubjective experiences. When you said, I came to the place and it had a transformative effect on my life with my society. And I think this is one of the questions that we were asking, how the person becomes part of a movement, a collective movement, a we, as us. So I think this is really, this was a great
I have
panel.
To say
go ahead, of course.
I, have to say. I just want to underline that it's not Sisi who stepped down Muslim Brotherhood, but the 30 million Egyptians in the street did it.
That we could say certainly that on Maidan there wasn't communists or LGBT rights supported people. They hadn't passed there. It was closed. When they appear with rainbow flag or with red flag, they was pushed away. In Maidan in Kiev. It was such position. There was like a lot of radical anti-democratic European anti-gay people, and it was only possible participation in like horizontal deep Maidan movement in the tents, which not everyone of so-called leftists used. They appear like with rhythms protiv, rhythm of resistance with drums, some like feminist command. They goes through Maidan, through the people, and like tell some slogans and disappear. They haven't participated deeply, as for example, student assembly did. We haven't proclaimed that we are leftist, and a lot of participants in the student assembly was just refused they are leftist. They haven't take this. It was like kind of very this meaning was like killed by the doings also, the leftist meaning. It was just disappointment in this naming. It was some kind of sect that some people privatized this meaning of leftist. Tried to develop some party. But anyway, anarchists many times was proclaimed they're anarchists based in some barricades. Everyone could come, but leftists never came. It's not on, I also wanted to say that it was kind of discrimination of this LGBT rights, for example, but last week there was taken the, it's a Trudovy Codex, the low labor in parliament, and there was an anti-discriminative codex, like addition to the law, and there was anti-discrimination against sexual minorities also together with some, and like nationalists and many, a lot of people was against of this, but by pushing of some active people on the street, on next day it was taken. So Maidan movement, it's not stop only during this time, but it was also, it will be many things on next Maidans.
Come back at 2, so we have a bit little time. We have an intense afternoon meetings. Please come. Thank you very much.